Bonjour. Comme chaque premier mercredi du mois, nous nous retrouvons sur Fréquence 7, que ce soit 12h30 ou 17h30 pour l'émission Claire d'Étoile. Aujourd'hui, cette émission vous est présentée par Denis de l'association Claire d'Étoile et Brin de Jardin. Bonjour Denis.
Et par Françoise, également de Claire d'Étoile, qui joue le rôle de la candide, enfin de la fausse candide, car tous les membres de Claire d'Étoile, Françoise est experte en étoiles. Bonjour Françoise.
Comme à l'habitude, nous commencerons par un tour du ciel et de ce qu'il est possible d'y voir durant tout le mois à venir. Denis, je sais qu'il y a des planètes et des phénomènes lunaires.
Le mois de mars n'est pas extraordinairement favorable à l'observation des planètes, sauf si on se contente de Vénus. Et d'ailleurs, pourquoi on ne se contenterait pas de Vénus ? Elle est toujours magnifique. C'est toujours aussi l'astre le plus lumineux du ciel. C'est pour cela qu'elle est visible dès 18h30 en début de mois. Plus tard ensuite, à cause de l'allongement du jour, sous forme d'une étoile extrêmement brillante, qui souvent est à l'origine de nombreux rapports d'ovnis par les personnes peu familières du ciel. Au cours du mois, elle monte de plus en plus haut dans le ciel, jusqu'à se rapprocher en fin de mois des Pléiades, ce petit groupe d'étoiles brillantes et serrées, visible assez au-dessus de l'horizon ouest vers 21h,
et également d'Aldébaran, la belle étoile rouge du taureau.
Et Vénus continuera son ascension apparente jusqu'au mois d'avril, ce qui signifie que de notre point de vue, nous la voyons de plus en plus écartée du Soleil. Les autres planètes sont plus discrètes et réservées aux matinaux, de surcroît ceux qui bénéficient d'un horizon est bien dégagé. Entre 5 et 6 heures du matin, en début de mois, se lève, dans cet ordre, le trio Mars, Jupiter et Saturne. Du fait de leur position basse sur l'horizon et de l'aube de plus en plus tôt, ils ne sont que moyennement lumineux. On remarque bien sûr le rouge de Mars. Au fur et à mesure de l'avancée du mois, Mars va perdre sa première place dans le peloton pour se glisser entre Jupiter et Saturne. Et ça se reconnaîtra parce que Jupiter, c'est vraiment la plus brillante.
Est-ce tout pour les planètes ?
Oui, du moins pour celles qui sont visibles à l'œil nu. Mais il ne faut pas oublier la Lune, qui au long des jours du mois de mars va passer, comme d'ailleurs chaque mois, par toutes les phases possibles. Il n'est pas inutile de rappeler à cette occasion que si nos mois comptent 30 jours, c'est que cela correspond à peu près à la durée d'une lunaison. Donc ce soir du 4 mars, la Lune va se lever, à l'est bien sûr, vers 20h30, sous une forme très légèrement gibbeuse, c'est-à-dire qu'on a dépassé légèrement le stade du premier quartier. Et le lendemain, on la trouvera à cette même heure en dessous de Castor, l'une des plus belles étoiles de la constellation des Gémeaux. C'est d'ailleurs un bon truc pour apprendre à reconnaître cette célèbre paire d'étoiles. Le 7 et le 8 mars, elle voisinera avec Régulus du Lion. Mais comme la Lune sera presque pleine à ce moment-là, ce ne sera peut-être moins facile de repérer. Mais essayez tout de même de deviner la forme de la constellation. Un rectangle allongé, une étoile à gauche qui forme la queue et une tête en forme de point d'interrogation inversé. Le bas de la patte, c'est bien sûr la brillante Régulus. En revanche, les 18 et 19 mars, elle rendra visite au trio Mars-Jupiter-Saturne dont nous avons parlé tout à l'heure. L'observation sera plus aisée car la Lune sera à ce moment-là sous la forme d'un très fin croissant peu lumineux. En revanche, l'ensemble étant très près de l'horizon, vers 5 heures du matin, il faudrait être particulièrement matinal. Dans la nuit du 28 au 29 mars, on ne pourra plus voir la Lune, car elle sera nouvelle. Mais que cela ne vous empêche pas d'avancer votre montre d'une heure, car nous passerons, peut-être pour la dernière fois, à l'heure d'été.
Il semble que nous aurions fait le tour pour le ciel du mois. Je propose que nous passions à la deuxième partie. Le focus de ce mois est placé sur un certain Albert Einstein. Est-ce bien cela ? Ce n'était pourtant pas un astronome.
En effet, mais de façon indirecte, à travers l'explication de l'énergie des étoiles, le Big Bang, les trous noirs, les ondes gravitationnelles, et même l'outillage qu'utilisent les astronomes comme l'électronique et l'informatique, ces travaux ont eu un impact certain. Albert Einstein est né en 1879 à Ulm, en Allemagne. Il est donc plus un physicien théoricien qu'un astronome. Contrairement à une légende tenace, ce n'était pas du tout un mauvais élève au lycée, mais il était très rétif à la discipline et très peu conventionnel. Ses débuts professionnels furent difficiles, et il commença par végéter dans une obscure place d'employé de bureau des brevets à Berne, en Suisse. Cet emploi lui laissait cependant beaucoup de temps libre et il sut l'employer à bon escient. Il contribua largement au développement de la mécanique quantique à travers son explication de l'effet photoélectrique pour lequel il obtiendra le prix Nobel en 1921. Puis, en 1905, il publie la théorie de la relativité restreinte qui aura un retentissement considérable. En particulier, on peut en déduire une équivalence entre la masse et l'énergie à travers la célèbre équation E égale mc2. En 1915, ce sera la relativité générale dont l'impact sur la cosmologie moderne sera déterminant. Il est aujourd'hui considéré comme l'un des plus grands scientifiques de l'histoire et sa renommée dépasse largement le milieu scientifique. Il est LA personnalité du XXe siècle, selon l'hebdomadaire Time. Dans la culture populaire, son nom évoque automatiquement l'intelligence et le génie, et souvent une critique caustique de l'égoïsme politique et militaire. On lui attribue de nombreuses citations, dont beaucoup sont apocryphes. Comme l'a écrit Louis Terkel, historien et cinéaste américain, l'avantage d'attribuer une citation à Einstein est que l'on peut difficilement être contredit. Einstein est mort en 1955 à Princeton, aux États-Unis, où il tenait une chaire de recherche et d'enseignement.
Y a-t-il vraiment un rapport entre la théorie de la relativité et l'électronique ?
Pas vraiment, en effet. Mais Einstein n'est pas que le père de la théorie de la relativité. Il a aussi travaillé dans d'autres domaines, l'analyse du mouvement brownien, et surtout, comme nous l'avons vu, ce qui lui a valu son prix Nobel en 1921, l'explication de l'effet photoélectrique. La date du prix Nobel. Et pour la petite histoire, il semble d'ailleurs que cette fameuse équation avait déjà été proposée par Poincaré et Olinto de Preto, un autre physicien italien, mais sans faire le lien avec la relativité.
Relativité restreinte et relativité générale, comment les qualifier de façon simple ?
Le principe de relativité est connu depuis Galilée. Il énonce que les lois physiques sont les mêmes dans tous les référentiels en translation uniforme. Alors, pour le dire d'une façon plus simple et concrète, les lois sont identiques dans votre salon, dans la cabine d'un TGV ou dans un avion, et vous ne pouvez pas les utiliser pour détecter votre mouvement lorsque vous êtes assis à votre place, hublot fermé. Rien ne vous permet de détecter un mouvement uniforme, sa direction, sa vitesse, sauf lorsqu'il change, par exemple si vous accélérez, si vous freinez ou si vous tournez. Ce qu'a montré Einstein dans la théorie de la relativité restreinte, c'est que l'application de ce principe imposait des conséquences étranges et contre-intuitives. Le fait que le temps n'est pas le même pour deux observateurs en déplacement l'un par rapport à l'autre, et qu'aucun corps matériel ne peut s'éloigner d'un autre à une vitesse supérieure à une certaine limite, limite qui est la vitesse de la lumière dans le vide, et que EMC2 en était la conséquence directe.
Le temps n'est pas le même pour deux observateurs en déplacement l'un par rapport à l'autre. Cela veut dire que le temps est différent pour un voyageur dans un TGV et pour celui qui restait sur le quai.
Tout à fait. C'est la base de la théorie de la relativité restreinte. Et pour comprendre comment Einstein en est arrivé là, il faut faire un petit peu d'histoire. À la fin du 19e siècle, on commençait à disposer d'appareils suffisamment sophistiqués pour mesurer avec une bonne précision la vitesse de la lumière. Et les physiciens firent une découverte très troublante. Lorsqu'ils mesuraient à 6 mois d'intervalle la vitesse de la lumière provenant d'une étoile, c'est-à-dire à un moment où la Terre se dirige vers cette étoile et ensuite 6 mois plus tard au moment où elle s'en éloigne, ils s'attendaient bien sûr à trouver une différence d'environ 60 km par seconde, différence due à la vitesse de rotation de la Terre autour du Soleil. Or la mesure fut toujours constante, c'est-à-dire 300 000 km seconde. C'était très embarrassant et les physiciens cherchèrent désespérément des explications, certaines même farfelues et alambiquées, comme l'existence d'un support immatériel, mais néanmoins infiniment rigide, qui s'appelait l'éther. Einstein mit fin à ces grandes interrogations en postulant la relativité du temps par rapport à l'observateur, c'est-à-dire que le temps du voyageur en TGV n'était pas le même que celui d'une personne sur le quai. Le formalisme mathématique qu'il utilisa pour ceci impliquait la constante de la vitesse de la lumière, mais imposait également l'impossibilité de la dépasser, du moins pour un observateur extérieur. Mais nous aurons l'occasion d'y revenir.
Eh bien, merci Denis pour toutes ces informations, et nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine émission avec Claire d'Étoile au mois d'avril, le premier mercredi étant le 1er avril. Merci.
Au revoir.